Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ces instants que tu nous accordes, afin que nous puissions écouter de ta part encore une fois cet après-midi. Merci Seigneur pour la résurrection. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour l'amour que tu as manifesté ces jours-là, Seigneur, en donnant tout ce que tu es, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Et cet après-midi, Seigneur, pendant que nous voulons encore une fois écouter de ta part, nous prions que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, enfin, Seigneur, que nous puissions t'entendre et que nous puissions te voir, Seigneur, resplendissant dans toute ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu vas te révéler encore une fois à nous cet après-midi. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions avec acclamation. Amen. Amen, amen, amen. Wow. C'est un privilège, une grâce, encore une fois, de me retrouver devant vous en ce jour de Pâques pour partager juste quelques réflexions qui vont nous aider à voir combien ce jour-là est inoubliable, comme nous les chantons souvent. Amen. Ce jour est inoubliable. Ces jours-là sont inoubliables. Le jour où Jésus a tout donné et le jour où Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Et pourquoi est-ce que ce jour-là est très important et pourquoi est-ce que nous continuons à le célébrer des années et des années après? Pourquoi est-ce que ce jour est important pour des jeunes gens comme vous et moi qui vivent au 21e siècle? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à célébrer ces jours-là? Eh bien, je vais vous dire cet après-midi que quand on est jeune, quand on est dans cette saison de la vie, on doit prendre des décisions sur les choses qui sont les plus importantes pour nous. Quelles sont les choses que nous allons compter comme les choses qui comptent réellement et sur lesquelles nous allons baser la direction de notre vie et les décisions que nous prendrons au fil du temps? C'est maintenant qu'il faut décider de quelles sont les choses les plus importantes. Et parmi ces choses-là, je veux que nous puissions voir combien la croix de Jésus et sa résurrection sont cruciales pour notre bien-être et pour une vie en abondance, pour nous maintenant et même jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Sommes ensemble. Parce que justement, la vie est pleine de situations que nous pouvons juger comme des situations terminales. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons juger comme des cas désespérés, n'est-ce pas? Quand on va à travers les défis des jeunes qui vivent dans cette province du Nord Kivu, on peut être désillusionné. On peut se dire que non, ce qui se passe ici ne changera jamais. Vous savez qu'on a un slogan, n'est-ce pas? On a un slogan qui dit tout le temps, ce pays n'a pas... Et ça circule dans tous les cercles. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait un diagnostic pour dire que, pour ce pays en tout cas, il n'y a pas de chance. Et même pour tous ceux qui habitent dans ces pays, il n'y a pas de chance. Mais ça, ce sont des hommes, des paroles d'hommes. Et ça fait partie de toutes ces choses-là que nous jugeons comme finales. Ça fait partie de toutes ces choses-là que nous pouvons juger. On a traversé beaucoup de choses difficiles et on peut se dire que, en tout cas pour moi, c'est fini. C'est fini. Pour moi, c'est fini, il n'y aura plus de changement. Pour moi, c'est fini, il n'y aura plus d'ici pour ces problèmes que je suis en train de traverser. Pour moi, c'est fini, en tout cas, je suis né dans une famille compliquée, et donc c'est compliqué pour moi, pour toute la vie. Il n'y a pas d'ici. Il n'y a pas d'ici. Mais aujourd'hui, je viens nous rappeler qu'il y a certaines choses que quand nous les comprenons et quand nous les jugeons importantes, quand nous plaçons ces choses-là au centre de notre vie, au centre de nos intérêts, même ce que nous jugions comme un diagnostic final pour nos vies, pour nos familles, ne sera plus final. Même tout ce que nous jugions comme sans ici, quand nous regardons à la croix, quand nous regardons à la résurrection de Jésus, nous voyons que les choses peuvent changer. La transformation est possible. L'espoir est encore disponible. Amen. L'espoir est encore disponible. Et parmi les situations qui nous poussent au bout de nous-mêmes, j'ai essayé de lister quelques-unes des situations. Il y en a peut-être certains qui étudient difficilement, ou d'autres qui n'ont même pas l'espoir d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont personne pour payer pour eux. Il y en a d'autres qui ont commencé un boulot quelconque quelque part et à un moment on a dit, bon, on n'a plus de budget et donc tu dois partir. La perte d'un boulot, c'est quelque chose qui nous touche complètement. Ça peut être comme un diagnostic final. On ne sait pas comment on peut se relever d'une telle chute. On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va maintenant se passer? Et quand on regarde les responsabilités qu'on a, on s'est dit, non, non. En tout cas, c'est sans ici. Et même les personnes qui nous regardent, ils disent, en tout cas, depuis le cas Yakelishaka, en tout cas, terrible, Kabis. crise, Kavis. Crise. Il y a d'autres qui sont en train de traverser des moments de chômage prolongé. Tu as étudié, tu as passé suffisamment de temps, tu as même distingué peut-être, mais les boulots, on ne les trouve pas. Les travails ne se retrouvent pas. Ce sont des situations qui, quand on les traverse pendant longtemps, on peut juger que, terminal, il n'y aura plus de changement. Et avec la situation économique de ce pays qui n'a pas de chance, en tout cas, c'est sans ici. Il y a beaucoup de situations comme ça. Ça peut être une blessure relationnelle. Il y a des personnes qui marchent avec des blessures. Ça peut être des blessures relationnelles, ça peut être des blessures qui sont liées à un environnement quelconque dans lequel tu as évolué. Il y a des personnes qui se promènent avec cette amertume partout où ils vont. Et ils disent, en tout cas, ça ne va pas changer. Ils n'ont personne pour leur montrer qu'il y a espoir quelque part. Ils n'ont personne pour leur montrer qu'il y a espoir. Il y a des personnes qui ont été trahies. Il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers. Et vous savez, la mort, des fois on voit la mort et on se dit, en tout cas, Binaïcha, n'est-ce pas? Face à la mort, on est tous sans mots. Face à la mort, on est tous perplexes. Face à la mort, on est tous confus, anxieux, on ne sait même pas comment réagir. Parce qu'on trouve que cette mort-là, c'est finale. Binaïcha, passi, haïkotena, atarudiakatena. Et on marche avec ces fardeaux-là. On marche avec ces fardeaux-là et on juge que ces choses sont terminales. Terminales. Ça peut être une longue maladie, ça peut être un conflit familier, ça peut être une infirmité, ça peut être des conflits autour de nous, la guerre. J'en ai parlé. Vous savez, cette semaine, nous étions en cellule quelque part et nous avons vu une famille qui a fui d'un village qu'on appelle Kibirizi quelque part. Dans ces pays, pour ceux qui connaissent. Et ces gens sont ici à Goma. Et quand ils nous ont raconté leur histoire, j'étais choqué par ce qui s'est passé. Parce qu'on nous dit que quand les rebelles sont arrivés chez eux, ils sont allés chercher les papas de cette famille. Et par chance ou par malchance, les papas n'étaient pas là. Et quand ils ont insisté, ils ont dit « Non, non, vous êtes en train de les cacher, il faut qu'on vérifie où il est. » Ils ont tiré une balle dans la main de sa femme pour la neutraliser. Ils sont allés dans la chambre, ils ne l'ont pas trouvé, ils ont vu son fils et ils ont tiré une balle dans son bassin. Un garçon qui marchait très bien, mais maintenant, à cause du fait qu'ils ont tiré une balle dans son bassin, il ne peut plus marcher. Il ne marchera plus. Ça peut être comme une situation finale, n'est-ce pas? Parce que la vie est pleine de ces situations-là qu'on juge sans ici, terminale. L'amertume, la culpabilité, il y en a qui marchent dans la culpabilité. Il y a des choses que tu as faites ou des choses qu'on t'a faites et tu marches dans cette culpabilité encore et encore. Il y a d'autres qui marchent dans la honte et on juge que, en tout cas, ça ne changera plus. Je suis un cas désespéré. Je suis un cas désespéré. Et bref, c'est une situation de confusion totale. Une situation qu'on ne sait même pas décrire, on ne sait même pas voir l'issue. Et je crois que c'est cette même situation que les disciples de Jésus étaient en train de traverser après qu'ils soient crucifiés. Parce qu'on nous dit que pour eux, c'était la débandade. Et si on peut le dire dans les termes de notre génération, « Wote walikulaka, coin. Kila mutu akaenda kulwaki. » Personne n'est resté là. Même Pierre, qui était le plus zélé, il l'a renié combien de fois? 3 fois. Pas une seule fois. Pas 2 fois. Mais 3 fois. Il l'a renié 3 fois. Pourquoi? Parce que ce qu'il venait de voir était comme paradoxal par rapport à la façon dont ils ont marché avec Jésus. Vous savez, pendant 3 ans, ils ont vu le Christ accomplir des choses. Ils ont vu le Christ faire des miracles. Ils ont vu le Christ guérir des malades. Ils ont vu le Christ ressusciter des morts. Ils ont vu le Christ nourrir des personnes, des foules qui étaient affamées. Ils ont vu des grandes choses et ils sont entrés à Jérusalem triomphants, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a célébré le dimanche passé, le dimanche des rameaux. Ils sont entrés à Jérusalem triomphants parce que pour eux, en fait, ils ne comprenaient pas encore les genres de royaume que Christ était venu inaugurer. Et ils voyaient vraiment ces rois, ces messies qui vont mettre l'Empire romain à terre. Et donc, ils étaient tous enthousiasmés. Hosanna, Hosanna, waouh, 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 waouh. Ils mettent leurs habits. Et après, il s'est fait arrêter. Et après, il est trahi. Parce que Jésus est passé par toutes ces choses-là. Il est passé par toutes ces choses-là. La trahison, la réjection. Il est trahi. Il est pris, il est arrêté. Et il voit comment on est en train de le crucifier. Confusion totale. Est-ce que c'est la même personne qui a ressuscité Lazare d'entre les morts? Confusion totale. Il voit comment ces soldats sont en train de faire quoi? De taper, de cogner ces clous entre ses mains. Vous savez, quand on regarde quelqu'un se faire torturer, on a des réactions, n'est-ce pas? C'est comme si c'est nous, hein? On se dit, aïe, aïe, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et toutes ces femmes ont regardé ça. Et c'était la confusion totale. Et après, vous savez que quand on l'a mis sur la croix, c'est un instrument de torture. Un instrument de torture où tu meurs lentement. Tu meurs lentement. Parce que la façon dont tu disposes là ne te permet pas de bien respirer. Tu es là. Très compliqué. Un instrument de torture. Et ils ont été témoins de cette souffrance-là. Ils ont été témoins de cette souffrance-là qui était paradoxale à tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus au cours de sa vie. Et à un moment, comme les sabbats approchaient, vous savez, les Romains, partout où ils allaient, ils étaient quand même respectueux de la culture des personnes chez qui ils étaient. Même s'ils avaient conquis le royaume des Juifs, Israël, ils étaient respectueux de la culture. Et ils savaient que les sabbats étaient sacrés. Et donc, il fallait faire descendre le corps. Il fallait faire descendre le corps. Et comme la croix était un instrument de torture, il se faisait des fois qu'on pouvait faire descendre le corps pendant que la personne était encore en vie. Et donc, il fallait vérifier si cette personne est encore en vie et se rassurer qu'elle meurt. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par les deux malfaiteurs qui ont été crucifiés à côté de Jésus. Et vous savez pourquoi ils ont brisé leurs pieds? C'est parce qu'à force de ne pas avoir la possibilité de bien respirer, quand on te brise les pieds, il y a comme un courant d'air qui entre dans tes poumons et t'étouffe. Et là, tu meurs. C'est pour ça qu'ils ont brisé leurs pieds. Ils sont brisés. Et il est mort. Les premiers malfaiteurs. Ils sont passés au second. Ils ont brisé. Et l'autre aussi, il est mort. Mais quand ils sont arrivés devant Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Et pour se rassurer qu'il était réellement mort, ils ont pris quoi? Une lance. Et ils l'ont fait pénétrer sur son côté. Et il y a eu de l'eau et du liquide, du sang et du liquide, pour montrer qu'il était vraiment mort. Qu'il était vraiment mort. Et donc Christ était mort ce jour-là. Il y a plus de 2000 ans. Il est mort. Et ces choses-là, nous devons les considérer comme importantes si nous voulons vivre une vie abondante, si nous voulons vivre une vie qui glorifie l'Éternel, si nous voulons vivre une vie qui est focalisée sur l'essentiel. Ces jours-là, nous devons nous en rappeler. Si je suis en train de vous donner tous ces narratifs, c'est pour que vous puissiez vous en rappeler. C'est pour que vous puissiez vous en rappeler. Et donc, ils ont pris son corps. Et on nous dit qu'il y avait un disciple de Jésus qui s'appelait Joseph d'Arimathée, qui était disciple en secret. C'était un homme riche. Il était parmi les grands décideurs. Et il était parmi ceux qui avaient décidé, qui n'avaient pas décidé que Jésus soit crucifié. Et il est allé demander à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus et d'aller l'enterrer. Et Nicodème s'est joint à lui. Parce que quand on a rencontré Jésus, on ne rentre pas tel qu'on était. C'est même Nicodème qui demandait à Jésus, comment est-ce qu'un vieil homme comme moi peut naître de nouveau? On voit réellement que sa rencontre avec Jésus ne l'avait pas laissé tel qu'il était. Parce que le jour de sa mort, Nicodème est apparu. Il a été de ceux-là qui ont fait quoi? Qui ont embaumé son corps. Qui l'ont mis dans les tombeaux. Parce que quand on rencontre Jésus, on ne rentre pas tel qu'on est. On ne rentre pas tel qu'on est. Mais sa mort n'était pas finale. Sa mort n'était pas finale. Sa mort n'était pas finale. Amen. Sa mort n'était pas finale. Parce que quand ils l'ont placé dans les tombeaux, ils l'ont embaumé, ils ont mis toutes ces aromates. Il fallait qu'ils les fassent vite parce que le soleil allait bientôt se coucher. Il était bientôt le sabbat. Et donc, ils n'ont pas tout fait. En tout cas, ça, c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse parce qu'elle explique pourquoi les dimanches matin, des femmes, trois femmes, sont allées aussi faire quoi? Ajouter d'autres aromates. Et donc, ce matin-là, on va lire dans Marc chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au septième. La Bible nous dit, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre selon l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus et de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez. » Comme il vous l'a dit, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour la parole du Seigneur? Il est ressuscité. Malgré la mort atroce qu'il venait de traverser, malgré les tortures, Christ avait été ressuscité par le Seigneur. Et quelles sont les implications de cette résurrection pour nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on continue à célébrer la résurrection d'un homme qui est mort des milliers et des milliers d'années avant nous? Pourquoi est-ce qu'on continue à célébrer cette résurrection? La première chose que j'aimerais que nous puissions noter aujourd'hui, c'est que la résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement historique. Ce n'est pas seulement un événement religieux, mais c'est un fait historique. C'est un fait historique. Et ce fait historique authentifie la vérité absolue qui est notre foi. C'est l'authentification de la vérité absolue qui est notre foi. Un fait historique qui authentifie la véracité absolue de notre foi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de vérités. Hein? Il y a beaucoup de vérités. Et toutes ces vérités sont relatives. Et chacun peut avoir sa propre vérité, n'est-ce pas? Parce que des fois, on peut dire que la loi au Congo dit ceci et la loi en Amérique dit autre chose, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des vérités qui sont relatives à un contexte, qui sont relatives à un peuple. Mais la résurrection de Christ est quelque chose qui nous montre un fait historique, parce que ce n'est pas seulement une vérité religieuse, c'est un fait historique, c'est quelque chose qui s'est passé réellement au travers de l'histoire, qui démontre la véracité absolue. Parce qu'il y a une vérité relative et il y a aussi une vérité absolue. La vérité absolue, ça veut dire que c'est ça la vérité avec V majuscule. On est en train de se comprendre. La véracité absolue de notre foi. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que les chrétiens disent que c'est seulement la chrétienté qui est la vraie, les chemins, la vie et la vérité? Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est la vraie foi? C'est la seule voie vers les dieux créateurs de l'univers. La résurrection en est la preuve. La résurrection en est la preuve. Pourquoi? Parce que les fondateurs de toutes les autres religions, ils sont déjà morts. Mahomet, il est dans une tombe quelque part là-bas, à la Mecque ou à Médine, je ne sais pas. Bouddha, il est dans un tombeau. D'ailleurs, on ne peut même pas les retrouver. Poussière. Confucius et tous ces autres courants-là, celui qui a créé les témoins de Jéhovah, celui qui a créé je ne sais quel courant, ils sont tous morts. Mais Christ est vivant. Il est vivant pour démontrer que cette vérité, elle est absolue. C'est un fait historique. Un fait historique, quelque chose qui s'est déroulé dans l'histoire. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont bien sûr fait garder les tombeaux, n'est-ce pas? Ils l'ont fait garder. Ça, c'est la première chose qui nous montre que c'est un fait historique. Ils ont fait garder les tombeaux. Il était bien gardé et il était bien scellé. Et certaines personnes disent que non, ses disciples ont volé les corps. Mais les personnes qui ont gardé ces tombeaux-là, c'était des gardes, c'était des soldats. Et les disciples ne pouvaient même pas les affronter. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est déroulé ce jour-là. Et même ses gardes, avec toute leur puissance, ont été pétrifiés. Ils ont été pétrifiés. Et Paul nous rappelle combien cette résurrection est réelle parce qu'il a consacré tout un chapitre dans une de ses lettres pour nous montrer combien même il y a beaucoup de témoins qui ont vu Jésus vivant, respirant dans les corps. Il a dit, il est apparu en premier à Pierre, il est apparu aux 11 et il est apparu devant 500. Parce que quand Paul a écrit la lettre aux Corinthiens, il y avait encore de ceux-là qui avaient vu Jésus vivant. Qui était là? Qui était encore en vie? C'était une façon de dire aux gens qui commençaient à s'opposer au fait que Jésus était ressuscité. Ok, si vous ne me croyez pas, allez demander à toutes ces personnes-là qui l'ont vu. Parce qu'il y en a qui sont encore vivants. Un fait historique qui fait quoi? Qui prouve que notre foi est la vérité absolue. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie qui nous ramène à Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. La deuxième chose que nous pouvons voir, c'est que cette résurrection est une victoire. Nous la chantons, n'est-ce pas? Nous chantons que c'est une victoire. Mais c'est une victoire qui annule le mal et toutes ses conséquences. Elle annule le mal et toutes ses conséquences. Elle valide les sacrifices faits par Jésus à la croix. C'est une validation du sacrifice de Jésus à la croix. Pourquoi je dis validation? Je ne sais pas si vous êtes fan de boxe. Récemment, j'ai regardé un film qui s'appelle Creed. N'est-ce pas? Il y en a des fans qui ont déjà vu Creed. Ouais. Alors, il y a un troisième volume qui est sorti. Et j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant. C'est que dans les matchs de boxe, hein, les combattants, ils sont là, ils se battent, n'est-ce pas? Ils se battent. Et il y a ce qu'on appelle un knockout, un KO, n'est-ce pas? Ça veut dire que d'un seul coup de poing, tu frappes ton adversaire et il tombe à terre. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est que même si tu viens de frapper ton adversaire et qu'il vient de tomber à terre, l'arbitre, il vient et il commence à faire un compte à rebours. Il fait un compte à rebours. Il dit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis il fait quoi? Et puis il soulève la main de la personne qui vient de faire le KO, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'arbitre fait? Il est en train d'authentifier que réellement le knockout, le coup de poing a fait quoi? A tué, a mis à terre l'adversaire. Est-ce qu'on est en train de comprendre ça? Quand est-ce que la victoire a été gagnée? C'était quand le coup de poing a été frappé, n'est-ce pas? Mais l'authentification montre la validité de cette victoire-là. Elle montre la validité de cette victoire. Et quand Christ est ressuscité d'entre les morts, il montre combien son sacrifice est valide pour payer pour tous les péchés du monde. Il n'y en aura plus d'autres. Amen. La résurrection est la validation du sacrifice de Jésus à la croix. Il n'y en aura plus d'autres. Il n'y en aura plus d'autres. Parce que la Bible nous dit aussi que c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, et à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ressuscité pour notre justification. Ça veut dire qu'il a changé notre statut. Nous étions pécheurs, nous étions morts, nous étions loin de Dieu. Mais cette résurrection authentifie que nous sommes justes à partir du moment où nous croyons à son sacrifice. Nous sommes justes. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de ce que je suis en train de dire. Nous sommes justes comme si nous n'avions jamais péché. Nous sommes justes comme si nous avions toujours obéi. Nous sommes justes comme si nous n'avions jamais péché. Nous sommes justes comme si nous avions toujours obéi. Pourquoi? Parce que Christ a obéi. Parce que Christ n'a jamais péché. Et sa justice, il nous la couvre. Il nous couvre de sa justice. Et la résurrection est la validation de ce travail-là. La résurrection et le travail est la validation du sacrifice de Jésus sur la croix. Et cette validation nous amène à une nouveauté de vie. Parce que le même pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous à partir du moment où nous croyons en son œuvre. C'est pour ça qu'il nous amène à une nouveauté de vie. C'est pour ça que Paul pouvait encore écrire en Romains chapitre 6 au verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. Quelqu'un qui a expérimenté Christ ressuscité ne sera plus jamais le même. Il marche en nouveauté de vie. La parole que nous venons de lire ici, Jésus dit, allez dire à Pierre et à mes disciples, n'est-ce pas, qu'il est... Attendez. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. C'est là que vous les verrez. Mais pourquoi est-ce qu'on prend Pierre, on met Pierre à part? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tous les disciples? Vous connaissez le contexte de Pierre ici? Pierre était dans la culpabilité. C'est là que j'ai commencé. Pierre était déçu. Pierre était quelqu'un qui ne se sentait plus digne de faire partie du royaume de Dieu. Mais comme la résurrection de Jésus valide les sacrifices de Jésus pour les péchés du monde, c'est pourquoi Pierre est aussi inclus. Pierre est aussi inclus parce qu'il est aussi justifié. Malgré les reniements qu'il avait fait, il a été justifié. La résurrection les ramène aussi vers Christ. Tous ses disciples qui s'étaient dispersés, qui avaient abandonné Jésus, Jésus les ramène encore parce qu'il est ressuscité. Et il les justifie tous. Il les amène à une nouveauté de vie. Il les amène à une nouveauté de vie. La dernière chose que nous pouvons encore noter pour la résurrection de Christ, c'est que dans les narratifs de Dieu, parce que si nous croyons que Dieu est le maître de l'histoire, si nous croyons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, nous croyons aussi que Dieu est en train d'écrire l'histoire de nos vies. Amen. Et donc dans les narratifs de Dieu, toutes les situations sans issue apparente, y compris la mort, ne sont que des virgules et non des points finaux. Elles ne sont que des virgules et non des points finaux. Là où tu as mis un point final, là où tu t'es dit que, en tout cas pour moi, c'est un cas désespéré, c'est un point final, Dieu nous dit aujourd'hui qu'à cause de la résurrection, ce n'est qu'une virgule. Ce n'est qu'une virgule, l'histoire n'est pas terminée. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Et tant que tu respires, il y a encore espoir. Amen. Tant que tu respires, il y a encore espoir. Ce ne sont que des virgules. Toutes ces choses-là ne doivent pas nous définir. Ce ne sont que des virgules. La perte d'un boulot, virgule. Le chômage prolongé, virgule. Une blessure relationnelle, virgule. La trahison, c'est une virgule. La perte d'un être cher, c'est une virgule. C'est une virgule. Parce que nous croyons que Christ est ressuscité dans un vrai corps. Et la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre toute la création. Et qu'en lui, nous ressusciterons aussi, pas seulement spirituellement, mais aussi dans nos corps. Et nous aurons des corps plus glorieux que ceux que nous avons. Et donc même la mort est une virgule. Amen. C'est une virgule. C'est une virgule. La longue maladie qu'on peut traverser n'est qu'une virgule. L'angoisse d'une longue attente. Il y a des choses qu'on attend avec angoisse. C'est une virgule. La culpabilité est une virgule. On n'est pas, il n'y a pas de cas désespéré devant la résurrection de Christ. Il n'y a pas de cas désespéré. Toutes ces personnes-là qui se comptent en dehors de la grâce de Dieu, Christ est en train de dire, l'ange a dit, allez dire à Pierre, celui qui est en train de se compter en dehors, j'ai déjà trahi. Viens, tu as trahi, oui, c'est vrai, tu as renié Christ, mais ce n'était qu'une virgule. Ton histoire continue. Ton histoire continue. Ton histoire continue. Et nous allons finir en disant qu'à partir du moment où nous croyons à cette vérité, à partir du moment où nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il y a une nouveauté de vie. Il y a un changement total. Parce que nous partons avec une nouvelle perspective. Et si nous faisons de cette vérité l'ancre de nos vies, notre vie ne sera jamais la même. Parce que nous marcherons dans la victoire, pas seulement pour demain, mais même pendant que nous sommes en train de traverser des choses difficiles. Parce que là, nous comprendrons l'essence de ces choses-là. Nous saurons que la souffrance actuelle n'est pas finale. Elle n'est pas finale. Nous saurons que les erreurs du passé ne sont pas finales. Nous pouvons encore une fois recommencer et marcher avec Dieu dans la victoire. Parce qu'il nous relève à travers quoi? À travers sa résurrection. Et c'est une invitation à chacun d'entre nous de demander à Dieu de faire quoi? De me montrer des domaines de ma vie où je n'ai pas encore accepté que Christ est ressuscité et qu'il est capable de me ressusciter aussi. De demander à Dieu de nous sonder, de sonder nos cœurs et qu'il nous montre toutes ces choses-là, tous ces domaines de notre vie où nous disons que la résurrection de Christ est là pour nous montrer qu'il n'y a aucun obstacle, qu'il n'y a aucune chose qui nous sépare de l'amour de Dieu et qui peut nous empêcher de faire quoi? De vivre et de marcher dans la victoire avec lui. Et donc, c'est une invitation à faire la même prière que David avait faite. Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi et vois s'il y a quelque chose dans mon cœur qui n'est pas en accord avec cette grande vérité. Cette grande vérité que Christ, c'est vrai, il est mort, il s'est sacrifié pour nous, mais il est ressuscité pour notre justification. Et donc, notre histoire continue. Nous vivons maintenant dans la victoire et nous vivrons éternellement dans la victoire avec lui. Parce que toutes ces choses que nous voyons comme des très grands défis ne sont que des virgules dans les narratifs de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.